Trajectoire, un podcast de Maïlys Détry. Ma rencontre avec Eddy Lezal date d'il y a quelques mois. Pendant cette année 2018, j'ai eu une nouvelle opportunité de travail. J'ai pu réaliser un documentaire sonore pour une exposition au sein d'un projet artistique de territoire. Bon, en clair, j'ai travaillé avec une artiste, Caroline Melon, autour d'une famille de Libourne, la famille Gradiana, dont la dernière descendante a légué la maison familiale à la ville. On a vu la fameuse maison se vider de 3 générations de meubles et d'histoires. On a aussi remonté le fil de leur passé pour avoir des bases pour écrire un projet. C'est à ce moment-là que Caroline a fait appel à Eddy Lezal pour rendre un dernier hommage à tous les morts ayant vécu dans la maison. Une sorte de rituel pour souder aussi un peu une partie de l'équipe du projet. On s'est réunis sur place avec Eddy Lezal et on a parlé d'une manière très libre des grands-parents, des parents et des enfants Gradiana sans vraiment les connaître, mais on a parlé de ce qu'ils nous évoquaient. Pour finir, on a planté un arbre dans le jardin comme une sorte de renouveau. C'est moi qui emmenais Eddy Lezal à Libourne. On ne s'était jamais vu avant, alors pendant le trajet, on a vite sympathisé. Elle m'a expliqué qu'elle était très triste parce qu'elle cherchait son chat depuis 3 jours. Elle m'a aussi dit qu'elle était psychanalyste et qu'elle aimait parler de la mort. C'était inattendu, alors forcément, ça m'a plu. Quand elle est arrivée en France, elle est d'abord passée pour un ovni brésilien avec un énorme parcours universitaire. Et puis petit à petit, elle en est venue à organiser à Bordeaux des cafés mortels. Un nom simple, peut-être aussi dingue que le projet d'ailleurs. Un endroit où on boit un coup en parlant spontanément de la mort de manière informelle. Et les gens sont venus. De plus en plus. Comme s'il y avait un vrai besoin. Alors avec l'engouement, Eddy Lezal s'est mis dans la tête de monter une coopérative funéraire écologique. Mais ça, elle vous l'expliquera mieux que moi. Quand j'ai franchi la porte du cabinet d'Eddy Lezal, j'ai été accueillie par son chat, qui était donc visiblement de retour à la maison. On s'est installé dans des gros fauteuils, par un mercredi 31 octobre pluvieux, et on a, comme Eddy Lezal sait si bien le faire, parlé de la mort, des événements marquants de sa vie, sans vraiment que je n'aie à lui poser de questions. Ah oui, et puis j'oubliais. Depuis 5 semaines, je suis plâtrée. Alors j'espère que vous saurez pardonner les petits problèmes techniques de cet épisode et aussi à certains moments, le bruit de mes béquilles.
Ma première formation, c'est le droit. Donc, je suis avocate, tout d'abord. Et puis, j'étais étudiante en droit. Et j'étais très sensible. Je viens d'un pays où il y a beaucoup d'injustices, d'inégalités. Et j'étais très touchée par la souffrance des enfants des rues. Et donc, étudiante en droit, j'ai travaillé avec des amis. On a décidé d'aller proposer, de donner des petits déjeuners à des enfants des rues. Et c'est un projet qu'on a mené pendant quelques années. Et je me suis attachée beaucoup à un enfant, comme tous les autres. Mais celui-là, il était vraiment beaucoup plus fou que les autres. Il était dans un rapport à la mort assez surprenant. Et un jour, je suis arrivée pour lui offrir les petits déjeuners. Et je demandais où il était. Il était toujours là, il était toujours le premier. Il était très, très exubérant. Et là, pas de nouvelles, personne ne savait où il était. Et il y a quelques enfants qui sont arrivés qui m'ont dit qu'il avait été renversé par une voiture. Et je suis partie dans un hôpital public. Il était par terre, complètement détruit. Tout son visage avait été détruit. Et c'est une expérience qui m'a extrêmement marquée parce que j'étais totalement impuissante. Je ne savais pas quoi faire. La seule chose que j'ai faite, c'est de prendre sa main et de rester là et de dire « je suis là, je suis là avec toi, je suis là avec toi ». Il s'est en sorti, cet enfant, miraculeusement. La vie est étonnante, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et donc, c'est la première expérience qui m'a marquée. C'est d'être là confronté à la fragilité de la vie, à la souffrance, au désarroi, à l'impuissance, tout ça. J'avais 22 ans.
Eddy Lezal a compris très tôt qu'elle était hypersensible, au sens diagnostiqué du terme, c'est-à-dire que c'est à la fois une faiblesse et un atout. Elle m'a fait beaucoup réfléchir, parce que cette année, on m'a offert un livre qui parlait de ça, et je me suis assez bien reconnue là-dedans. Du coup, quand on vit des événements traumatisants, ça nous touche deux fois plus, et il faut faire avec pour trouver sa place.
Je pense que je suis convoquée, quelque part. J'étais toujours quelqu'un qui dérange, en fait, depuis toujours, et depuis toute petite. Mais je ne suis pas la seule. Je pense que nous sommes plusieurs dans le monde à être comme ça, des personnes qui dérangent, qui voient là où personne ne voit et qui osent dire des choses que personne ne dit. La mort, c'est la question la plus importante de l'existence. Moi, toute petite, du moment où j'ai pris conscience que j'allais mourir, j'ai un souvenir très précis d'une voisine que nous avions. Et un soir, j'ai rêvé qu'elle allait mourir. Et à ce moment-là, c'était une amie de ma mère. Et quelques temps après, dans la même nuit, on a été appelés et elle était morte. Et c'était un rêve qui m'a énormément marquée, puisque j'étais petite et puis c'est la première fois où j'ai vu un mort de ma vie. Mais en fait, la mort au Brésil n'est pas du tout traitée de la même manière. Donc nous, on était là, on l'a touchée. Moi, je me souviens que j'étais très effrayée, je sentais son corps tout froid. Et puis les enfants ont joué avec, et puis on était tous dans un grand chagrin, dans un état un peu second. Mais tout cela se passait, mais tout le monde était là. Et puis ça m'a vraiment bouleversée, cette expérience. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça m'est resté longtemps, je me suis beaucoup interrogée, j'ai beaucoup lu, Je me suis beaucoup interrogée sur la mort et questionnée qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait ici, dans cette vie, pourquoi on est là. Quand on se confronte à la souffrance et à la mort, il y a quelque chose en nous qui se déplace, qui n'est plus pareil. J'ai démarré une analyse et puis cette analyse m'a permis de prendre conscience pourquoi ça résonnait autant, pourquoi ça me faisait autant souffrir, tout cela. Et les liens avec ma propre histoire, parce que nous ne sommes pas détachés de ce que nous avons vécu. Donc, c'est cette confrontation-là qui m'a fait revenir à l'intérieur.
Quand on a vécu des trucs pareils, ça influe forcément sur notre trajectoire, y compris sur celle d'une jeune Brésilienne pleine d'ambition. Ça la pousse sûrement même à chercher un endroit où elle sera mieux.
Donc je suis partie travailler dans le domaine du droit, j'étais assistante d'un juge au Brésil, je suis venue en France après, j'ai fait des études de sciences politiques en France, j'ai travaillé dans la politique. Et ma vie est ponctuée par des crises, et les crises sont pour moi des opportunités, dans le sens même du mot crise, chance, opportunité. Chaque crise m'amène évidemment à toucher quelque chose du bas, mais ça m'amène toujours à toucher quelque chose du haut, d'une nouvelle orientation. Donc, deuxième crise, c'était une crise professionnelle. Et je me suis interrogée, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Parce que le monde du travail dans lequel j'étais insérée, les choses que je faisais n'avaient plus aucun sens pour moi. Et j'avais besoin de donner du sens. Pour les troisièmes postes, j'organisais des rencontres, des réunions, j'animais des colloques, mais je voyais bien que je n'allais pas loin avec les gens. Et moi, je suis quelqu'un qui aime aller loin avec les gens. C'était toujours dans le superficiel, c'était toujours dans la pas, dans la para, et moi, j'ai préféré être dans l'intime. Et c'est là où la question de l'analyse est revenue, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui m'a le plus aidé à vivre. Et ce qui m'avait le plus aidé à vivre, c'est de me connaître. C'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'aime beaucoup parler de la mort, en fait. Je trouve que quand je parle de la mort, ça m'aide à, quelque part, à apaiser cette part en moi qui sait qu'elle est là, qui ne sait pas très bien comment vivre avec, parce que la mort fait partie de la vie. Pour moi, les deux sont liés. Et donc, j'ai toujours aimé évoquer le sujet. Et quand je rencontre quelqu'un, j'aime beaucoup questionner sur ce sujet-là. Sauf qu'il y en arrive en France, J'ai très vite constaté que c'était pas du tout un sujet possible. Et là, j'étais vraiment, encore une fois, effrayée parce que je me suis dit, comment ils font pour ne pas parler de la mort? Comment font-ils pour vivre alors que la mort est toujours là? Mais peut-être que pour moi, elle était beaucoup plus proche. Je viens d'un pays où la mort est très présente. Mais je dis, mais quand même, ici, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'hôpitaux, il y a beaucoup de pharmacies. Et puis, à chaque fois que je vois leur visage se figer, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça fait 20 ans que je vis en France. Maintenant, ça a un peu changé. Mais quand je suis arrivée, j'avais 27 ans. Et puis, les gens étaient complètement sidérés. Et moi, c'est mon compagnon qui m'a dit un jour, ne parle pas de ce sujet, on n'en parle pas en France de la mort. Au début, j'étais quand même révoltée. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Ça me révoltait de ne pas pouvoir parler de la mort. Après, une fois que la révolte est passée, je me suis dit, bon, ben, accepte. Mais un peu plus tard, j'ai découvert que c'était une souffrance. Donc, je me suis dit que je devais faire quelque chose parce que personne n'allait aller là-dedans. Je considère que ce n'est pas suffisant ce qui existe. Ce n'est pas suffisant que les personnes soient accompagnées par des entreprises privées. Ce n'est pas suffisant d'avoir des enterrements standardisés, que la vie d'un être humain ne soit pas honorée, qu'on n'ait pas des rites pour des personnes qui ne sont pas croyantes. Ce n'est pas suffisant de ne pas honorer une vie. Je pense que ça m'a un peu interpellée et m'a fait agir sans bien savoir comment le faire. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai mesuré l'ampleur de la tâche et je me sens vraiment pas du tout à hauteur. Mais bon, les choses se font et je suis même moi-même surprise.
Toujours sur son chemin, Eddy Leuza a voulu quelque chose de plus précis. Une place, toujours, mais une où elle se sentirait complètement accomplie. Alors elle est partie chercher, ailleurs.
Tout a démarré par un voyage, encore une histoire de chemin. Je suis partie pendant un an au Brésil pour faire une année sabbatique avec mes enfants. Et pendant cette année sabbatique, je me suis dit, j'avais le temps de réfléchir, d'écrire, de faire du silence, de rien faire simplement. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire en France, dans le domaine de la mort? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et je voulais faire quelque chose qui n'avait pas été fait. J'étais élevée dans un univers où les rites étaient très présents. Et puis, ça marque beaucoup les passages. Toute ma vie, j'ai bien aimé célébrer les choses. Et bon, voilà. Donc, je me suis penchée sur le sujet et j'ai découvert en Suisse une formation de rite funéraire laïque. C'est une femme qui faisait cette formation. Et puis, je me suis dit, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse. La vie est faite tellement de surprises. C'est une Américaine qui vit en Suisse et qui a un enfant brésilien. Alors, je dis, bon, ben voilà, tout y est. Donc, je suis partie en Suisse pendant un an et je me suis formée au rite funéraire laïque avec toute une dimension anthropologique, philosophique, psychologique, évidemment. Et puis, les rites dans toutes les cultures et comment construire des rites laïques. Et à l'issue de cette formation, je suis arrivée à Bordeaux et j'étais toute contente parce que ma formation était vraiment très chouette. Je suis venue voir les pompes funèbres et je dis, ben voilà, je suis célébrante de rites funéraires et je viens me proposer mes services. Et bon, il n'y a eu aucun écho, évidemment. Les pompes funèbres m'ont dit, mais nous n'avons pas besoin de vos services, madame. Nous avons des célébrants et nous n'avons pas besoin de vous. Donc, j'ai été vraiment assez déçue et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? C'était en 2012. Et j'ai découvert le travail de Bernard Crétas, qui est un ethnologue qui est suisse aussi, qui était directeur du musée d'ethnographie de Genève. Et cet homme, il a organisé une expo sur la mort dans les musées. Et puis, dans cette expo, il y a des personnes qui sont venues et qui ont dit, mais nous, on aimerait bien parler de la mort, mais on aimerait parler entre nous. Et donc, un soir, il a fermé les musées et les gens sont venus et ils ont commencé à parler. de la mort. Et donc voilà, et donc Bernard Crétaz a décidé de commencer, d'initier des cafés mortels dans des lieux publics, dans des cafés et dans des bistrots. Et moi, j'ai trouvé l'idée juste fantastique, je me suis dit, je vais le faire. Et c'est comme ça que j'ai démarré mes cafés mortels. Donc ça fait 4-5 ans que j'ai démarré ces projets en faisant le pari qu'on peut parler de la mort sans que ça soit pathologique, sans que ça soit aussi académique. C'est vraiment un espace très ordinaire, simple à la fois. Donc moi j'introduis, je donne juste les consignes, j'explique d'où ça vient. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut être... pour contrôler la parole, chacun dit ce qu'il veut, voilà. Il y a des personnes qui viennent pour parler de leur propre mort, qui souhaitent élaborer quelque chose de ce qu'ils aimeraient. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils ont perdu des proches. Il y a des personnes qui viennent juste pour écouter les autres. Il y a une fête au Japon pendant une partie de l'année où on peut honorer les morts. Les morts peuvent être parmi les vivants. Et à l'issue de Café Mortel, j'ai dit, maintenant, les morts peuvent partir et nous pouvons partir aussi. Parce qu'il y a aussi cette place aux morts. Moi, je défends aussi cette place des morts dans la vie. Et les gens disent, par exemple, qu'ils ne sont pas contents du tout des cérémonies. C'est d'ailleurs la première chose que les gens viennent dire dans un café mortel, qu'ils ont perdu des proches, qu'ils ont assisté à des cérémonies très froides, qu'ils se sont retrouvés au crématorium, il n'y avait pas un seul mot, qu'ils se sont sentis très, très mal. Et on a décidé de carrément d'aller là-dedans et de créer une coopérative funéraire avec l'idée de faire des cérémonies, d'organiser des rites laïques. On a voulu honorer les personnes qui n'ont pas de croyances religieuses, avec une dimension écologique. Ensuite, on a voulu aussi que la beauté soit au cœur de notre projet, parce que beaucoup de personnes disent que c'est laid, la musique est horrible, que les couleurs sont moches, que tout est en plastique. Nous, on veut créer une maison pour la mort. Notre projet est un peu fou. On veut créer un lieu beau, un lieu chaleureux, un lieu où les gens puissent se retrouver, les gens qui ont perdu des proches, qui souffrent, qui sont proches de mourir aussi, puissent venir se poser un peu, puissent choisir ce qu'ils veulent. Et puis, organiser des colloques, un lieu de ressources. On peut se préparer et puis, moi je ne sais pas, quand on prend les livres des morts des Tibétains, quand on voit toutes ces connaissances, je me dis que c'est quand même important d'être accompagné dans la mort. C'est pas simple de mourir. Et moi, j'aimerais bien être accompagné. Il faut rêver. Une vie est faite de rêves. Peut-être que je ne verrai jamais. Ce n'est pas grave. L'idée existe et puis c'est tout. Je suis sûre que les sociétés qui vont venir, ils vont vouloir autre chose. Et donc, ça se fera. Avec moi ou sans moi, ce n'est pas très important.
Comme à chaque fin de trajectoire, j'aime aller prendre l'air. Eddie Loza m'emmène en balade juste à côté de chez elle, un endroit qui l'inspire et qui va très bien avec notre thème.
Oh, alors, où est-ce que tu nous emmènes ?
Alors, nous sommes au cimetière juif, israélite. Voilà, c'est le cimetière portugais qui est au cours de l'Isère à Bordeaux. Voilà, c'est un petit cimetière qui est très joli. Je vais rapidement poser ça. Tac. Et puis on va rentrer. Vous allez découvrir ces lieux. Je viens ici de temps en temps avant mes cafés mortels pour me poser, pour parler aux morts. J'aime bien le travail de Vinciane Després, qui est une psychanalyste belge, qui a écrit un livre très beau qui s'appelle « Au bonheur des morts » et qui m'inspire beaucoup parce que justement, elle dit « On n'arrête pas de dire, c'est fini, c'est terminé » mais sauf que pour les gens, c'est pas comme ça. Les morts sont toujours là. Donc moi, même si je ne suis pas croyante, je me dis « Les morts sont toujours là quelque part. » Donc
Je viens ici pour m'inspirer, pour dialoguer, pour entendre les oiseaux, pour voir les chats qui passent, pour juste être là. Je trouve que c'est un lieu qui est symbolique pour moi, en tout cas. Moi, je suis arrivée dans ce long cours, et ce cimetière était là, donc c'est tranquille.
Et je suis très étonnée de ce lieu, parce que je ne pensais pas qu'il était au-dessus du niveau du sol.
Oui.
Je ne pensais pas qu'on montait deux marches, ouais, et qu'on dominait, et surtout cette vue sur le Sacré-Cœur qui est incroyable.
Oui. Ah oui, il y a une magnifique vue.
En fait, les cimetières français sont pour moi un peu difficiles. J'aime bien le Père Lachaise, mais là, ce n'est pas au niveau esthétique ce que je préfère. Mais en fait, il se trouve que, comme je suis d'origine juive, ce cimetière, il a quand même aussi un lien à mes origines. En fait, et j'ai découvert, ma famille s'appelle Pereira, et donc j'ai découvert une tombe, mais je ne pourrais pas la retrouver là peut-être tout de suite, mais j'ai retrouvé une tombe de cette famille. Bon, je ne sais pas si c'est ma propre famille, mais quelque part, ça m'a relié à ces origines-là que j'ai découvertes très tard, puisque les Juifs ont quitté l'Europe, ils ont voyagé en Amérique du Sud, et ils ont changé de nom. Ma mère était juive, elle ne nous a jamais rien dit. Elle ne savait même pas d'où elle venait, et on a découvert très tard qu'elle était juive. Et donc c'est tombé encore une fois un peu sur moi de ma sœur aînée qui a fait des recherches sur nos origines. Et puis moi j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre dans ma famille. Et puis finalement on a découvert qu'on était d'origine juive. Oh. Voilà, un chat qui apparaît. Trop mignon. Coucou. J'ai découvert mes origines. Et puis ce cimetière, finalement, tu vois que pas les lieux les plus beaux, mais il a quelque chose, il est là. Il a toutes ces personnes qui sont là, des enfants. Là, on est face à une tombe d'un enfant. Il y a des tombes qui sont bien entretenues, il y a d'autres qui sont, on voit bien, qui sont bien abandonnées.
On est dans la simplicité, hein, là,
ouais,
vraiment.
C'est très simple. C'est très simple, c'est pas du tout...
Imaginez son propre enterrement. Est-ce que, comme Eddy, Leza et moi, vous l'avez déjà fait? Quelle musique vous voudriez avoir? Quelle nourriture? Quel alcool? Qui seront les absents, les présents? Qui fera un discours? Qui pleurera?
Et alors toi, tu voudrais être enterrée comment?
Oh là, je sais pas, de temps en temps je me dis que j'aimerais bien être incinérée. Et puis que mes cendres soient jetées ou soient déposées en haut d'une montagne. J'adore les montagnes. Mais après je pense qu'il faut laisser les soins, en tout cas pour ma part, je préfère que mes enfants décident qu'est-ce qui est important pour eux. Parce que j'ai deux enfants, et puis je pense que ce n'est pas que mon désir à moi, c'est aussi pour eux. Donc eux, ils sauront ce qui sera bon pour eux. Peut-être qu'ils auront besoin d'avoir quelque chose, d'avoir un lieu. Peut-être que c'est important pour eux, donc je vais essayer de respecter, je préfère laisser ouvert, tu vois ? Pas décider moi-même de tout. J'aime pas décider de tout, en fait. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui préfèrent tout décider. Moi, je préfère me laisser porter par le vent qui souffle.
Et tu voudrais de la musique à ton enterrement?
Ah oui, beaucoup de musique. j'adore la musique.
Comme quoi?
Comme Leonard Cohen, que j'adore. Vraiment, c'est l'un de mes chanteurs préférés. Parfois, je dis à mes enfants, voilà, ça, je vais pour mon enterrement. Ils me disent, ah, mais ton enterrement, ça va durer combien de temps? Je dis, j'envisage même de le faire avant de mourir, comme ça, j'assisterai. Ça va être trop drôle.
Ça, c'est génial.
C'est le dernier album de Leonard Cohen. D'ailleurs, il a fait cet album un peu, très, quelques jours avant de mourir. Hein.
Et il est en hommage à son fils décédé aussi.
Voilà, et il y a une chanson, je ne sais pas si c'est Inani, Inani, c'est en hébreu, ça veut dire « me voici ». Me voici. Et c'est quelque chose que dans les textes bibliques, tous les prophètes disaient quand ils étaient face à l'Éternel, me voici. Et donc c'était une manière de dire je suis préparée pour ce moment-là, pour ce passage. J'adore, c'est vraiment très grave, très Leonard Cohen quoi. Voilà, rien à dire, mais moi j'aime ça, j'aime ce côté. Voilà, ça convoque quelque chose.
C'était l'épisode 2 de Trajectoire. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à aller noter mon podcast sur iTunes, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et à me faire tout retour ou commentaire via justement ces mêmes plateformes. Je vous dis à très vite pour un autre épisode.
Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord.